Bonjour à tous. J'en profite pour regarder vos visages. Oui, alors il y en a qui enlèvent le masque, du coup. Vous êtes beau même avec le masque. Je vais prier. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de nous réunir aujourd'hui. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, parce que c'est toi qui nous invites. Merci aussi pour ta parole que nous allons ouvrir. Je te prie de bénir ce temps pour que ta parole soit audible, c'est-à-dire pour que nos cœurs soient ouverts et disposés à t'entendre, Seigneur. Je te prie de briser les résistances qui sont en nous. Et je te demande ça au nom de Jésus. Amen. J'avais une vingtaine d'années, c'était dans ma vingtaine, et je suis allé un samedi avec un ami dans un coin de forêt de mon village où il y avait un rocher d'escalade. Alors j'allais vivre ma première expérience d'escalade ce jour-là, et mon ami Sébastien installe le matériel, il me montre comment enfiler le baudrier, il me donne quelques consignes de sécurité, et voilà que je me mets à grimper ce rocher d'escalade. Et il y a quelque chose qui me surprend dans l'ascension, c'est que contre toute attente, je n'ai pas le vertige, je n'ai pas de sensation de vertige. Je ne suis pas très fan de la hauteur, mais là je me sens à l'aise, je me sens bien posé, je me sens en sécurité, je sais que mon ami est compétent, que le matériel est bon, que le baudrier me tient bien, je suis bien assuré, et j'avance en confiance. Et même la fameuse descente en rappel ne me fait pas peur, je descends, et c'est un vrai plaisir que de le faire. Et puis j'ai eu une deuxième expérience d'escalade, quelques années plus tard, avec un autre ami, au même endroit. Et ça n'a pas été la même expérience. C'était sur ce même rocher. Sauf que lui, on arrive sur place, on commence à s'installer, et puis il me dit ceci. Il me dit, un jour, je suis venu avec un ami ici, comme toi, là. Il a grimpé, je l'assurais, et quand il est arrivé à mi-parcours, j'ai tout lâché. Et je l'ai laissé, là, planté au milieu, et il était flippé, il était agrippé, là, à sa paroi, là, il ne savait plus quoi faire. Alors je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça ? Et il me dit, pour qu'il expérimente la peur de la mort. Alors, je ne sais pas si vous auriez fait comme moi, mais moi, ce jour-là, je n'ai pas grimpé. Et il m'a demandé pourquoi. Et je lui ai dit, bah, parce que tu es cinglé, en fait. C'était un ami très spirituel qui se posait beaucoup de questions, notamment sur la question de la mort, mais il préférait que les autres expérimentent à sa place, a priori, voir ce que ça fait. Très spirituel, très spiritueux aussi. Et il n'a hélas pas bien fini. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'il ne faut pas remettre sa vie entre les mains de quelqu'un qui n'offre aucune garantie. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas une bonne idée. Et l'un des éléments forts de la révélation biblique, révélation qui nous invite à remettre notre vie entre les mains de Jésus, c'est précisément que c'est du solide. C'est du solide. Et dans le texte qu'on va lire, il y a, je crois, de quoi affermir notre foi. Ce texte, il se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4. Évangile de Luc, au chapitre 4, et je vais lire les versets 14 à 22. Luc 4, versets 14 à 22. Il nous est dit ici, « Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Il vint à Nazareth où il avait été élevé et il se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture » et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jusque-là, la lecture. Jésus, c'est un jeune juif parmi les jeunes juifs. Il a grandi à Nazareth. Nazareth, c'est une ville qui se situe à 150 km au nord de Jérusalem, en Galilée. Aujourd'hui, c'est une grosse ville. J'ai vu qu'en 2015, il y avait 75 000 habitants dans cette ville. Donc on peut supposer que ça a grandi un petit peu maintenant, peut-être 80 000. Mais au 1er siècle, ce n'était pas une grosse ville, c'était une toute petite bourgade. Il y avait quelques centaines de personnes qui vivaient là, dans des maisons disséminées. Et les habitants vivaient là modestement. Le lieu n'était pas très attrayant, il n'avait pas très bonne réputation. Que peut-il sortir de bon de Nazareth, n'est-ce pas? Et cette synagogue où a prêché Jésus, dans notre texte, n'a jamais été retrouvée par les archéologues. On peut la supposer à l'image de la bourgade. On peut imaginer que c'était une synagogue toute simple, modeste, sans rien de particulier qui puisse attirer l'attention. Et c'est donc dans ce lieu que se passe la scène qu'on a lue. Avant, il se passe des choses intéressantes aussi. Avant, on voit que Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste, et puis il a ensuite été emmené au désert par l'Esprit-Saint pour y être tenté par Satan, et il ne va pas succomber à la tentation. Vous savez, on dit de Jésus qu'il est le dernier Adam, et contrairement au premier Adam, lui ne va pas succomber, il va sortir vainqueur des tentations. Et c'est rempli d'Esprit Saint, nous dit le texte, qu'il arrive dans cette petite synagogue de Nazareth. Et c'est dans ce trou perdu de Galilée, devant une petite assemblée que je qualifierais de privilégiée, parce que ce qu'ils vont vivre est exceptionnel, est incroyable, c'est là qu'il va se révéler au monde. Et ce petit épisode nous donne trois clés que je crois intéressantes pour notre vie de foi. Et la première, je l'ai un peu évoquée en introduction, c'est que notre foi repose sur du solide. Et je voudrais vous montrer comme l'écriture est belle, comme l'écriture est intentionnelle. Vous avez le texte derrière moi, je vois qu'il est déjà affiché. On voit moyennement les couleurs. Vous les voyez à peu près? Ouais, à peu près. Ce texte, il a une structure symétrique, et cette structure, elle s'articule autour des versets 18 et 19 qui sont en plein milieu et qui nous disent « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Ça, c'est vraiment les versets centraux de notre texte, et c'est pas moi qui le dis, c'est le texte lui-même, parce qu'il est bâti comme ça. Vous le voyez, alors moi je vois pas très bien d'ici, je vais essayer de garder le micro tout en commentant. On a au verset 17, il se leva, on lui remit le livre, il déroula le livre. Et puis au verset 20, il roula le livre, le rendit et s'assit. Verset 16, il vint à Nazareth où il avait été élevé, il se rend à la synagogue. Verset 20, les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Verset 16, il y va selon sa coutume le jour du sabbat. Et qu'est-ce qu'on y faisait de coutume le jour du sabbat? Eh bien, aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. On y lisait les écritures. Verset 15, il enseignait dans leur synagogue. Verset 22, il avait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Verset 15, il était glorifié par tous. Verset 22, tous lui rendaient témoignage. Et verset 14, il retourna en Galilée, c'est-à-dire dans le pays de son enfance, et les gens disent « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Ils le connaissent, ils le connaissent. Et ce n'est pas un hasard, cette structure, ce n'est pas un hasard, c'est une figure littéraire qui est très utilisée dans la Bible, qu'on appelle un chiasme. Alors, des chiasmes, il y en a de plusieurs sortes, c'est toujours des figures de parallélisme, mais celle-ci, je l'aime bien, moi. Cette sorte-là, je l'aime bien parce que l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle nous indique précisément ce que l'auteur biblique a voulu mettre en avant, ce qui était important, ce qu'il veut voilà, mettre sur un piédestal. Et là, ce qui est mis en avant, c'est précisément le texte que lit Jésus. Ce texte, c'est Ésaïe 61, et certains se demandent si Jésus a choisi volontairement ce passage. Certains pensent que oui, parce qu'il nous est dit qu'il trouva le passage où il était écrit, comme s'il avait cherché exprès ce passage-là en particulier. D'autres pensent que non, déjà parce qu'on lui a remis le rouleau d'Ésaïe, a priori il ne l'a pas choisi. Et puis parce qu'on est dans le cadre normé des lectures du sabbat, ça peut être le texte du jour, il suit la coutume. En vrai, peu importe. Peu importe, ce qui est sûr, c'est qu'il lit Ésaïe 61 et que Ésaïe 61, c'est un texte messianique. C'est-à-dire que c'est un texte qui parle du Messie, qui parle de ce grand libérateur qui est attendu par tout Israël. Ce texte, ça fait 700 ans qu'Ésaïe l'a écrit. 700 ans qu'il est lu à la synagogue. 700 ans qu'il est médité par les érudits, enseigné par les rabbis, les maîtres et les docteurs de la loi. 700 ans. 7 siècles. Et c'est là que ce que fait Jésus est extraordinaire. C'est là que sa parole est absolument inédite, qu'elle résonne comme jamais auparavant. Ce qu'il a dit, on ne l'a jamais entendu. Son enseignement ce jour-là, il tient en une seule phrase, en tout cas selon ce qu'on voit dans les évangiles. Et cette phrase, c'est « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ça fait 700 ans qu'on en parle, et c'est maintenant que ça se passe, devant vos yeux, que ça se passe. Dans cette petite bourgade de Nazareth, au milieu d'une poignée de fidèles, Jésus annonce qu'il est le Messie annoncé par les prophètes et attendu par Israël. Et cette parole, ou elle est vraie, et c'est une bombe, ou elle est fausse, et c'est aussi une bombe. Elle est digne de lapidation. Alors vous me direz, le fait qu'un rabbi arrive et dise qu'il est lui-même l'accomplissement de ce texte, après tout, ça engage qui, à part lui-même? Ça n'engage que lui. Ses auditeurs auraient eu des raisons de douter, et d'ailleurs, on voit qu'ils doutent un peu. On le voit un petit peu dans ce texte. Mais nous, on a ce privilège immense de pouvoir lire l'histoire à rebours. Ça, c'est un privilège. Alors on va se faire plaisir, en tout cas moi je vais me faire plaisir, et j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Et on va aller lire un autre texte du prophète Ésaïe, et on va lire ce texte en se rappelant qu'on est là 700 ans avant Jésus-Christ. 700 ans avant Jésus-Christ. Et ce texte, j'ai envie de dire, bien évidemment, c'est Ésaïe 53. Ésaïe 53. J'aime bien lire ce texte de temps en temps parce qu'il est merveilleux. Ésaïe au chapitre 53 dit « Qui a cru ce qui nous était annoncé ? Le bras du Seigneur, pour qui s'est-il dévoilé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. » Un peu comme Nazareth. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous, nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes, la correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme du petit bétail, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable au mouton qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été pris par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants à cause des transgressions de mon peuple, du fléau qui l'avait atteint. On a mis sa tombe parmi celle des méchants, son sépulcre avec celui du riche, bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. Si tu as fait de lui un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur se réalisera par lui. À cause de ses tourments, il verra, il sera rassasié par sa connaissance. Mon serviteur, le juste, apportera la justice à la multitude et il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai une part avec la multitude. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les transgresseurs alors qu'il a porté le péché d'une multitude et qu'il est intervenu pour les transgresseurs. C'est un texte fantastique. Pour un peu, on pourrait croire que ce texte a été écrit après la mort de Jésus, tellement il colle parfaitement à ce qu'a été sa vie et sa mort. Et d'ailleurs, certains l'ont prétendu. Certains ont dit, ce texte, c'est pas possible. C'est un ajout postérieur, ça a été écrit après. On pouvait le dire jusqu'à 1947, maintenant c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'en 1947, à Qumran, c'est un lieu près de la mer Morte, un berger a fait une découverte extraordinaire dans des grottes là-bas. Il a trouvé, soigneusement conservé dans des amphores, des copies de pans entiers de l'Ancien Testament, dont le rouleau d'Ésaïe. Ça, c'est la copie qui a été retrouvée donc, du rouleau d'Ésaïe, étalée là devant vos yeux. Ce rouleau est complet, il est incroyablement bien conservé, comme vous pouvez le voir, et ces manuscrits ont été formellement datés du IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, l'affaire est pliée. Et ce qui est merveilleux à comprendre, c'est que la révélation biblique, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel en une fois, comme prétendent l'avoir été, par exemple, le Coran ou le Livre des Mormons. Et ça, c'est pour moi, l'un des indices les plus probants de l'inspiration divine de la Bible. Un homme seul qui reçoit une prétendue révélation et qui la consigne par écrit peut être un imposteur, peut être un illuminé. Mais quand cette révélation s'étale sur plus de 2000 ans, quand elle annonce aux uns ce qui va arriver à d'autres des siècles plus tard, et que ça arrive, quand elle offre un ensemble cohérent, alors qu'elle passe par des dizaines d'auteurs différents qui ont vécu à des siècles différents, dans des lieux différents, ils ne peuvent pas s'être concertés. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi des textes comme ceux que nous venons de lire nous assurent que la parole de Dieu est fiable, qu'elle est précise et qu'elle est certaine. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette parole ? Eh bien, c'est la deuxième clé, je crois, que nous donne ce texte, c'est que Jésus sauve. Cette parole nous dit que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes. Et qu'est-ce qu'il est venu faire, ce Messie ? Il est venu, nous dit le texte, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Autrement dit, il est venu annoncer que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Et ces paroles, les paroles de Jésus, ont été accompagnées de signes. Ces paroles ont été confirmées par des faits. Il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, il a chassé les démons, il a ressuscité les morts. Ceux qui ont cru en lui ont été sauvés et ça s'est manifesté très concrètement dans leur vie. À commencer par une repentance salvatrice, libératrice, mes péchés ont été portés à la croix par Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Et puis, il a donné autorité à ses disciples pour faire en son nom les œuvres que lui a faites, et même de plus grandes, dit-il en Jean 14, 12, parce que moi, je vais vers le Père. Mais quelle mission ! Quelle mission est la nôtre ? Et quelle merveille nous sommes amenés à voir lorsque nous accordons foi aux paroles de Jésus ! Parce que oui, en son nom, des gens qui vivent en esclaves du péché deviennent des hommes et des femmes libres. Parce que oui, en son nom, les démons qui les tenaient captifs sont chassés. Parce que oui, en son nom, la mort qui régnait sur leur vie a été anéantie. Parce que oui, en son nom, Les murs de séparation ont été brisés entre eux et Dieu, et même entre chacun de nous. D'ennemis de Dieu, nous sommes devenus ses enfants, on l'a chanté tout à l'heure. Nous sommes devenus des frères et des sœurs, les uns pour les autres. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle pour tous les orphelins, pour tous les opprimés, pour tous les perdus qui errent sans berger. Et la troisième clé de ce texte, elle nous concerne tout à fait personnellement. Il y a des moments clés dans une vie de foi, des moments particuliers, des rencontres particulières. Ces moments n'arrivent pas souvent, mais à l'échelle d'une vie, il y en a quelques-uns. J'ai par exemple vécu l'un de ces moments le mardi 20 juin 2006 à 10h30 du matin. Alors il y en a qui connaissent un peu cette histoire. J'étais sur le chemin de Compostelle, j'avais déjà 5 heures de marche dans les jambes. Je suis arrivé à Ligonde, un petit village en Galice. Et là, dans ce petit village du nord de l'Espagne, il y avait une auberge. Et devant cette auberge, il y avait une femme qui proposait un café gratuit aux pèlerins qui passaient par là. Alors 10h30, café gratuit, ça colle, on s'arrête. Et alors qu'elle me sert mon café, cette femme me dit « Mais vous savez, c'est une auberge ici, vous pouvez rester dormir si vous voulez. » Alors 10h30 du matin, vous pouvez rester dormir, ça colle pas. Ça colle pas du tout, d'ailleurs, parce que je suis à 3 jours d'arrivée à Compostelle. Franchement, j'en ai plein les bottes. Si je m'arrête, ça va me prendre une journée de plus. Donc non, ça colle pas. C'est absurde. Évidemment que je ne vais pas m'arrêter. Sauf que, alors que je bois mon café assis sur un banc, le Seigneur vient m'enquiquiner. Et il commence par me dire « T'es venu sur ce chemin pour écouter ma voix, non ?» Je dis « Oui, Seigneur. » Et là, il est un peu plus assertif. Il me dit « Alors, reste. J'ai quelque chose d'important à te dire dans cette auberge. » Et alors là, vous avez le choix entre répondre favorablement à une injonction absurde, parce que c'est absurde, on ne s'arrête pas à 10h30 du matin pour dormir dans une auberge, ça se fait, je veux dire, non, ça ne se fait pas, ou être raisonnable et évidemment poursuivre votre route. Si je ne m'étais pas arrêté, je n'aurais probablement pas vécu en Espagne pendant 6 ans, mes enfants ne seraient pas nés, je ne serais certainement pas devant vous aujourd'hui, et mon épouse encore moins, puisque c'est elle, bien sûr, qui m'a servi ce café. Alors, comprenez-moi bien, je ne dis pas ça pour vous montrer à quel point je suis spirituel et hyper connecté avec le Seigneur. Moi, quand il me parle, j'entends très bien. Non, la vérité, c'est que la plupart du temps, je suis sourd comme un pot, je suis trop occupé, trop préoccupé pour entendre quoi que ce soit d'autre que mon propre ego, mes propres intérêts. Si je vous raconte ça, c'est simplement pour dire que je sais qu'il y a des moments clés dans une vie de foi, des points de bascule dans une vie de foi, des moments qui viennent tout changer et qui ont pour point de départ un élément d'une affligeante banalité. Un café, rendez-vous compte. Combien j'ai bu de café dans ma vie? En un an, plus de 700, je pense. C'était il y a 15 ans, faites le compte. Mais c'est celui-là qui a tout changé. Un culte, un dimanche matin du mois d'août, dans une église qu'on visite peut-être, qui est semblable à tant d'autres, un texte biblique lu 100 fois dans une petite synagogue de Nazareth, mais qui aujourd'hui nous éclate à la figure d'une manière différente. Et ce qui est terrible, ce qui est affligeant, c'est qu'en fait on peut passer à côté. On peut balayer d'un revers de main le Seigneur qui vient nous parler. Et alors ce café, ce culte, ce texte biblique, ne sont plus qu'un café parmi d'autres, un culte parmi d'autres, un texte parmi d'autres. Jésus était annoncé, Jésus sauve, et Jésus vient à ta rencontre. Il vient dans un mouvement tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Dans la synagogue, là-bas, il prend le rouleau qu'on lui tend pour y faire la lecture du sabbat, très ordinaire. Et on voit la réaction de ses auditeurs. Il y a un mélange de « waouh » et de « ouais ». Waouh, parce qu'ils sentent bien qu'il y a chez Jésus quelque chose de différent. Il enseigne avec une autorité que n'ont pas les autres rabbis. Waouh, parce que ce qu'il dit là, c'est extraordinaire. Alors, il y a de l'émerveillement, on le voit dans le texte, il est glorifié par tous, tous lui rendent témoignage. Et en même temps, ouais, enfin, c'est le fils du charpentier, quoi, quand même. On l'a vu grandir, on le connaît. J'ai vu sa mère changer ses langes. Il ne peut pas être le Messie, pas lui. Il y a des gens, leur problème, c'est qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ça, on le sait, on en parle souvent. Et puis, il y en a d'autres, leur problème, c'est qu'ils le connaissent trop bien. Ou en tout cas, ils connaissent trop bien l'image qu'ils ont de lui, qu'ils se sont fait de lui. Un Jésus très humain. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être que depuis que tu es tout petit, on te rabat les oreilles avec Jésus. Tu en as entendu parler tous les jours de ta vie. Et pour toi, il est là. Il ne te dérange pas. C'est même plutôt bien qu'il soit là. Globalement, c'est plutôt positif. Mais au fond, tu n'attends rien de lui. Tu ne t'attends à rien de particulier. Il est dans ta vie comme une cuillère dans le tiroir, comme le meuble dans l'entrée. Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Est-ce que tu vas balayer d'un revers de main la prophétie d'Ésaïe comme si elle ne s'était pas accomplie? Est-ce que tu vas continuer de vivre avec tes vieux démons comme si Jésus n'était pas venu délivrer les captifs? Est-ce que tu vas laisser Jésus comme un élément de décoration dans ta vie qui vient presque par accident mettre une petite touche spirituelle sur le tableau de ton existence? On est au mois d'août. L'église s'est vidée. Beaucoup sont partis en vacances. Quelques-uns sont là peut-être en visite. En tout cas, toi, tu es là. Pourquoi tu es là? Je vais prier. Seigneur, parfois on s'attend ou bien à rien, ou bien à de grandes choses, des choses étonnantes, extravagantes, qui viendraient nous dire que tu es venu à notre rencontre. À ces gens de la synagogue de Nazareth, tu t'es présenté comme tu t'es présenté chaque Shabbat dans la synagogue. Tu as lu le texte comme chaque Shabbat dans la synagogue, mais ce jour-là, c'était différent. Seigneur, dans cette banalité du quotidien, tu viens nous rejoindre aussi, Seigneur. Nous ne voulons pas être... Nous ne voulons pas ne pas avoir les yeux pour voir, Seigneur. Nous ne voulons pas te voir comme celui qui fait partie des meubles depuis tant d'années, qu'on a l'impression que tu n'as plus rien à nous dire, qu'il ne se passe rien dans notre vie, que ta présence est bien sympathique, mais qu'au fond, ça ne change pas grand-chose. Seigneur, tu es le Messie, annoncé par les prophètes. Tu es venu proclamer aux captifs la délivrance. Tu es venu ressusciter les morts. Tu es venu changer notre vie en profondeur. Tu es venu pour que celui qui se repent, qui se détourne de l'ennemi, qui se détourne de Satan, qui se détourne de ses œuvres mauvaises et qui te donne sa vie, puisse vivre d'une vie nouvelle, puisse vivre cette expérience d'une nouvelle naissance, une nouveauté de vie, Seigneur. Je te prie pour que ce matin, qui est un matin ordinaire, un matin comme tous les autres dimanches de l'année, cette parole résonne dans les cœurs de ceux qui ont besoin de l'entendre. Qu'elle ne les laisse pas tranquilles, parce que tu viens les rencontrer eux. Peut-être ils ne voulaient pas être là ce matin, ils avaient d'autres projets, peut-être qu'ils sont venus par hasard, peut-être qu'on ne les reverra jamais dans cette assemblée, mais toi tu es venu et tu les as rencontrés. Seigneur, je te prie de... Je sais que tu fais ton œuvre en eux. Plus exactement, je te prie de briser en eux toutes les résistances pour que ta parole puisse s'ancrer et faire l'effet que toi tu escomptes, parce que ta parole ne revient pas à toi sans effet. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Je vais inviter l'équipe de louanges à revenir.